Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, mes bien chers amis, je voudrais, avant de parler un peu des textes liturgiques d'aujourd'hui, faire quelques remarques pour nos âmes à propos de ce qui se passe ici à Pater Padiès. Il y a trois choses qui m'ont frappé. Vous savez que la fête du village, une fois par an, il y a à peu près 1000 personnes qui viennent. La première chose qui m'a frappé dans cette semaine dernière, d'ici, je vois à peu près tout ce qui se passe sur la pelouse, là, c'est le nombre de personnes qui sont venues aider. J'ai vu des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont venus aider pour tout installer, pour préparer les repas, pour préparer les tables, préparer l'arrivée de ces 1000 personnes. Et je me disais, si j'avais demandé à ces mêmes jeunes le dixième de ce qu'ils font pour préparer la fête du village, pour s'occuper de leurs âmes, ils seraient tous des saints. Et ça m'a fait penser à me dire, mais finalement, ce qu'il faut bien expliquer à nos fidèles, c'est d'avoir une hiérarchie des valeurs. Les choses importantes d'abord, les choses secondaires après. Regardez là, l'énergie qu'ils passent pour s'occuper de leur corps. Par contre, ils passent aucune énergie à s'occuper de leur âme. Et c'est tout le travail de la révolution. Et moi, je l'ai vu, de mes yeux, vu en cours ces deux derniers jours, parce que la fête dure 3 jours ici. Ces gens qui passent tellement de temps à s'occuper des choses secondaires et qui ne prennent pas de temps pour s'occuper des choses principales. Et donc, nous, en tant que catholiques, un catholique, c'est quoi? Un catholique, c'est un contre-révolutionnaire. Un catholique qui n'est pas un contre-révolutionnaire, c'est pas un catholique. Mais il doit bien comprendre ça, c'est qu'il faut inverser les choses pour éliminer de notre âme les choses secondaires et mettre dans notre âme d'abord les choses importantes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des corps, il faut aussi s'occuper des corps. Mais le corps passe après l'âme. La deuxième chose qui m'a frappé, j'ai relu Saint Paul hier, c'était dans l'Épître des Galates, chapitre 5. Saint Paul parle, dans l'Épître aux Galates, des conséquences de ceux qui abandonnent le bon Dieu. Il donne une longue liste de péchés. Et entre autres, il dit beuverie et orgie. Les deux mots qu'il utilise. Et je me suis dit, c'est exactement ça. Et ce matin encore, vers 7h du matin, une bande de gens complètement ivres, là, sous la pelouse, en train de hurler. Et je me disais, c'est exactement comme ça que le démon travaille. Il pousse les gens à trop boire pour perdre complètement la raison. Et après de cela, il amène les gens, évidemment, à tout ce qui suit en général les beuveries, à savoir l'impureté. Et en relisant le texte de Saint Paul explique que la racine de tous ces mots, il dit, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est dans Galates chapitre 5. L'idolâtrie, l'adoration d'un faux Dieu. Donc on voit très bien les 4 étapes. L'idolâtrie, première étape. Première conséquence plutôt de l'idolâtrie, la perte de la foi, l'infidélité. Deuxième conséquence plutôt de l'idolâtrie, les beuveries, le manque de tempérance dans la boisson. Et enfin, dernière conséquence, l'impureté. Et donc, pour nous, catholiques, une fois qu'on a compris ça, rappelez-vous la règle de Saint-Ignace dans les exercices. Une fois qu'on a découvert où le démon veut nous mener, on fait exactement le contraire. Et donc, il faut attaquer à la racine ces 4 choses, et pour attaquer à la racine ces 4 choses, il faut commencer par attaquer évidemment la racine des racines, à savoir l'idolâtrie, adorer le vrai Dieu pour mettre les faux dieux dehors. Cela nous fera conserver la foi pour lutter contre l'infidélité, et ensuite évidemment pratiquer la tempérance pour éviter les excès alimentaires et la concupiscence de la chair. Et en relisant, préparant mon sermon, en relisant le texte d'aujourd'hui, il y a dans l'évangile d'aujourd'hui de Saint Marc une phrase magnifique que j'aime beaucoup. Miséreor super turbam. J'ai pitié de cette foule. L'évangile nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, prêcher, il y avait 4000 personnes, 4000 hommes qui le suivaient. On ne parle pas les femmes et les enfants. Donc il y avait à peu près tous ensemble, peut-être une foule de 10 000 personnes. C'est énorme comme foule. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va s'occuper d'abord des âmes. Il va enseigner. Et il s'occupe des âmes en expliquant le catéchisme, en expliquant le pourquoi de sa venue. Et puis il regarde tous ces gens qui le suivent déjà depuis plusieurs heures, qui sont sous le soleil, qui doivent avoir faim parce qu'ils n'ont pas encore mangé. Ils se rendent compte que ces gens n'ont pas amené avec eux quelque chose de substantiel à manger. Alors il dit cette phrase à ses apôtres, « Miséreor super toi, j'ai pitié de cette foule. » Et à ce moment-là, le bon Dieu fait miracle. Il fait asseoir les gens, il dit à ses apôtres, « Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ?»« On a 7 petits pains, c'est tout ce qu'il y avait. » Chiffre 7, c'est le symbole de la totalité. Et notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses 7 petits pains, va multiplier les pains et nourrir les 10 000 personnes. C'est pour bien le faire comprendre la hiérarchie des valeurs. D'abord, il s'occupe des âmes, mais il n'oublie pas le corps. Il s'occupe d'abord des âmes, et une fois que les âmes sont formées, à ce moment-là, il s'occupe du corps en les nourrissant. Et tous les pères de l'Église expliquent que la multiplication des pains est le symbole de la Sainte Eucharistie. Notre Seigneur Jésus-Christ nourrit les âmes avec les sacrements, surtout le sacrement de pénitence, les sacrements de la Sainte Eucharistie. Évidemment, pour pouvoir être nourri substantiellement du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une condition. Cette condition, c'est d'avoir éliminé en nous, justement, le péché, écrasé le péché avec le regret de ses offenses. Et pour bien nous le faire comprendre, dans le bréviaire qui préparait la messe d'aujourd'hui, donc la bréviaire des matines, c'est les matines qui préparent l'évangile du jour pour le prêtre. L'évangile, dans l'explication des pères de l'Église sur l'évangile, et puis avec aussi les autres textes liturgiques qui viennent en ce moment du deuxième livre des rois, il donnait comme exemple, pour expliquer l'évangile d'aujourd'hui, ce texte de saint Ambroise, il donnait comme exemple la contrition de David. Et une phrase magnifique de saint Ambroise qui dit « David a péché, ce que les rois font souvent. » Mais David a regretté son péché et a pleuré ses péchés, ce que les rois ne font pas souvent. C'est magnifique. Et vous connaissez cette histoire. Donc David a offensé gravement le bon Dieu par l'adultère, par le meurtre. Il a fait tuer Uri, l'époux de Bethsabée, avec laquelle il s'est mis en concubinage. Et le bon Dieu, au lieu d'abandonner David, lui donne une leçon. Il lui envoie un prophète. Nathan. Et Nathan arrive, vient voir le roi qui reçoit tout de suite le prophète, parce que le prophète c'est une autorité. Et Nathan va raconter une histoire. Il y avait un monsieur très riche, qui avait un pasteur, qui avait de nombreux troupeaux, puis voilà qu'un étranger, un de ses amis passe sans prévenir, et il a dû lui préparer à manger. Et dans le même village où vivait ce pasteur très riche, il y avait un pauvre, qui avait pour tout bien, dit-il, une petite brebis qu'il élevait comme sa propre fille. Il dormait avec sa petite brebis, il nourrissait sa petite brebis, c'est tout ce qu'il avait comme bien. Et Nathan explique, le riche, qui n'a pas voulu utiliser les brebis de son troupeau, est allé voler la brebis du pauvre pour la prêter, pour la donner à manger à son ami qui visitait sans prévenir. Alors, évidemment, David réagit. Cet homme est un homme de mort. Il doit rendre 4 fois ce qu'il a pris. Et Nathan regarde David et lui dit, cet homme, c'est toi. C'est toi. Et lui explique, tu as pris la femme de ton prochain, tu as assassiné l'époux de cette femme. Et là, il y a un mot magnifique, deux mots splendides de David. David, au lieu de se révolter contre les remarques qui lui sont faites, David tombe à genoux devant le prophète et dit, Pécavi, David, j'ai péché contre le Seigneur. Et on voit très bien dans le texte, c'est magnifique ce thème du deuxième livre des rois, que notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit la contrition, qui voit le regret, immédiatement pardonne. Mais il y a un prix à payer. Il pardonne, il dit parce que tu as regretté ton péché, Dieu a éliminé ce péché, Dieu a pardonné ce péché. Cependant, l'enfant que porte Bethsabée mourra. Et je pense que c'est très important de nous aider à comprendre que le bon Dieu est plein de miséricorde, mais qu'il existe évidemment, parce qu'il est aussi plein de justice, il existe le changement intérieur. Il faut écraser du poids de sa contrition, du poids de son regret, les péchés du passé. Au Moyen-Âge, ils avaient, les prédicateurs utilisaient une très très belle histoire que j'aime beaucoup. J'ai souvent déjà expliqué, je ne sais pas si je vous l'ai déjà donné comme serment, je suis pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais. C'est une histoire magnifique, surtout pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est une histoire que les prédicateurs utilisaient toujours pour le Moyen Âge, qui a été après, qui était utilisée constamment dans les fêtes qui étaient organisées devant les cathédrales, où ils expliquaient, les troubadours expliquaient en chantant l'enseignement de l'Église. C'est l'histoire d'un chevalier du Moyen Âge qui avait abandonné complètement les principes de la chevalerie. Et au lieu de défendre le pauvre et l'orphelin, la veuve et l'orphelin, c'est des tas de bêtises. Il utilisait sa puissance et son arme pour massacrer les gens, pour piller à droite et à gauche. Et un jour, ce chevalier vient frapper à la porte d'un monastère, touché par la grâce du bon Dieu, et il décide de faire une conversion générale de toute sa vie. Et donc, un vieux moine vient entendre sa confession et il explique tous les péchés de sa vie. Et le pauvre moine est affolé de voir l'immensité des péchés de cette personne. Mais en même temps, il comprend qu'il y a dans l'accusation de ses péchés une espèce d'orgueil. On aurait presque dit que ce moine, que ce chevalier se vantait de tout ce qu'il avait fait. Alors le moine lui dit, écoutez, donnez-moi une journée, donnez-moi une nuit. Avant de vous donner l'absolution, je voudrais prier pour savoir qu'est-ce que je dois vous donner comme pénitence. Je vais passer la nuit en prière, revenez demain matin et je vous donnerai l'absolution et votre pénitence. Alors le moine retourne à ses affaires, le chevalier quitte le monastère, revient le lendemain matin et le moine avait passé toute la nuit en prière. Et la très sainte Vierge Marie lui était apparue pendant la nuit. Elle lui est apparue en donnant au moine un petit tonneau. Tonneau à vin, et lui a dit, vous donnerez ce tonneau à votre pénitent demain, vous lui donnerez l'absolution. Avant de lui donner l'absolution, vous lui direz, voilà, je vous donne ce tonneau, c'est la Sainte Vierge qui vous le donne. Vous allez remplir ce tonneau d'eau. Et lorsque ce tonneau sera rempli d'eau, à ce moment-là, je vous donnerai l'absolution. Donc le lendemain matin, le chevalier revient. Le moine lui explique ce qui lui est arrivé, il lui donne le tonneau, le chevalier s'énerve. Comment? C'est tout ce que j'ai à faire comme pénitence, mais c'est facile. Remplissez le tonneau d'eau. Et dès que ce tonneau est rempli d'eau, je vous donne l'absolution. Alors le moine prend le tonneau, se précipite à la fontaine qui était près du monastère, plonge le tonneau dans la fontaine, le tonneau se remplit d'eau, mais dès qu'il sort le tonneau de l'eau, toute l'eau s'échappe par les fissures qui étaient entre les différents bouts de bois qui formaient le tonneau. Et il refait de nouveau le même geste, il disparaît. Donc il revient furieux voir le moine en disant, mais c'est un tonneau magique que vous m'avez donné. Il ne retient pas l'eau. Il faut remplir le tonneau. Quand le tonneau sera rempli, vous pourrez venir me demander l'absolution. Et le moine ferme la porte du monastère. Et l'histoire dit que pendant plus de 20 ans, le chevalier est parti dans le monde entier pour essayer de remplir son tonneau. Il s'est dit, peut-être que si je vais au Jourdain, en Palestine, là, Jourdain qui a été sanctifié par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est là que Saint Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur, peut-être que l'eau restera. Donc il va au Jourdain, il plonge le tonneau dans l'eau du Jourdain, pareil, même chose. L'eau s'échappe du tonneau tout de suite. Et pendant 20 ans, dit l'histoire, il a parcouru le monde, essayant toutes les sources, toutes les eaux du monde entier. Et au bout de 20 ans, il revient complètement découragé, frappé au même monastère. Le vieux prêtre était toujours vivant. Il ne reconnaît même pas son chevalier. Le chevalier était tout couvert de poussière, tout sale. Et le chevalier tombe à genoux devant le moine. Et il dit, mon père, j'ai tout essayé. Ça fait 20 ans que j'ai trempé et plongé ce tonneau dans toutes les eaux de la création. Rien n'y fait, je suis damné. L'histoire dit qu'à ce moment-là, il y a une larme, il a commencé à pleurer. Et une larme est tombée de ses yeux, est tombée dans le tonneau, et immédiatement, le tonneau était rempli d'eau. Alors, le moine lui a donné l'absolution et le chevalier est mort en état de grâce. C'est une histoire magnifique, mais qui explique justement à la fois la miséricorde et la justice infinie du bon Dieu. Bien assurer les deux choses. On ne peut pas séparer la justice et la miséricorde du bon Dieu. Si on ne garde que la justice, qu'on oublie la miséricorde, je vous le dis souvent, on tombe dans la... On tombe dans la dureté. Si on garde que la miséricorde et qu'on oublie la justice, on tombe dans la faiblesse. Il faut les deux choses. Et donc, pendant ces 7 ans liturgiques, du milieu de l'été, eh bien, c'est ça qu'il faut demander au bon Dieu. La grâce d'avoir une contrition réelle pour tous les péchés de notre vie, avec une ferme résolution, une vraie douleur, jointe à une ferme résolution de ne plus pécher, d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché grave. Et si le bon Dieu voit cette contrition, immédiatement il pardonne. Immédiatement il pardonne. Alors demandons justement au bon Dieu d'utiliser toutes ces grâces qu'il nous a données. Je pensais hier en voyant, il y avait peut-être 1000 personnes en train de festoyer sous mes fenêtres là, je me disais. Il y a combien qui sont en état de grâce là-dedans? Je ne sais pas, Dieu seul sait. Mais je me disais aussi, mais quelle grâce nous, catholiques, nous avons reçue d'avoir compris des choses que ces pauvres gens ne comprendront jamais. Et pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a donné à nous des grâces de lumière, des grâces de foi, d'espérance, de charité, que le bon Dieu ne donnera peut-être jamais à ces gens-là? Et peut-être que si ces gens dehors, qui font les imbéciles dehors, avait reçu les mêmes grâces que moi, j'ai reçu, ce serait 3 fois plus 5 mois. Et peut-être que moi, si j'étais dans les mêmes situations qu'eux, je serais 10 fois pire qu'eux. Et je pense que cela doit nous aider à être, mes bien chers frères, à vivre dans la confiance en Dieu, mais en même temps dans l'action de grâce. Remercions le bon Dieu d'avoir conservé la foi. Le bon Dieu a jamais prédit qu'il y aurait des milliers de catholiques. Il a même parlé d'un petit troupeau. À la fin des temps, quand je reviendrai, disait-il, qui sait si je trouverai encore la foi. Alors pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a choisis, nous, particulièrement, pour conserver la foi et de la lumière du monde et celle de la terre? Parce que nous sommes meilleurs que les autres? Pas du tout. Parce que le bon Dieu nous aime d'un amour particulier. Et pourquoi est-ce que le bon Dieu vous aime, nous aime d'un amour tout spécial? Ça, c'est le mystère de la miséricorde du bon Dieu. Et il faudra lui demander, le jour où vous apparaîtrez devant lui, pourquoi est-ce que vous m'avez donné toutes ces grâces? Mais attention, ne pas oublier une chose importante, c'est que justement, à cause de toutes ces grâces que nous avons reçues, le bon Dieu a le droit de demander beaucoup plus. Il a le droit d'être exigeant avec nous, parce que précisément, nous avons davantage reçu. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, mais... Au contraire, demandons cette grâce par notre Sainte Vierge Marie, puisque c'est par elle que toutes les grâces passent. Demandons à cette Sainte Vierge Marie de savoir vivre dans l'action de grâce. Au lieu de paniquer, au lieu de nous plaindre pour tous les trucs qui ne vont pas, il y a toujours des tas de choses qui ne vont pas dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, nos milieux familiales, etc. Remercions le bon Dieu pour tout ce que nous avons reçu. Et le bon Dieu, par sa très sainte mère, nous donnera les grâces de persévérance, pour que nous puissions non seulement nous-mêmes persévérer, mais aussi faire persévérer nos enfants, pour qu'un jour, tous ensemble, nous nous retrouverions au paradis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.